Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et oui, la tech et le cinéma font bon ménage, vous le savez, on en parle souvent dans Tech & Co avec Xavier Perret qui est avec nous ce soir. Bonsoir Xavier.
Bonsoir François.
Directeur de l'entité Azure chez Microsoft France, donc le roi du cloud mais aussi un passionné de cinéma. Et c'est vrai qu'on aime bien mixer les scénarios de science-fiction de certains films qui ont 30, 40, 50 ans et se projeter et se dire, bah tiens, à l'époque on avait inventé ça, bah aujourd'hui ça existe. C'est un peu ça le thème de cette émission et de ce rendez-vous. Et Xavier, la dernière fois tu nous avais évoqué le film Her de Spike Jonze et tu nous avais dit en fin de chronique que tu allais proposer à ChatGPT de nous trouver le thème
le prochain
de ce rendez-vous en ce 7 mars.
Ouais, et on a trouvé un bien, justement, un très très bien, c'est War Games. Donc War Games, c'est un film de 1983, ça va être important, hein. C'est un film de John Badham, qui est pas peine connu, on va dire, c'est le réalisateur de La Fièvre du samedi soir. Autant dire que ça n'a aucun rapport, hein.
Ah ouais.
Derrière, voilà, c'est un peu une comédie d'adolescent, hein, derrière. Puis c'est surtout devenu culte, ce film, pour tous les geeks de l'époque, dont moi, parce que c'est vrai, j'avais 10 ans à l'époque, j'ai eu mon premier ordinateur vers cette époque-là. Donc et tout, ouais. Voilà, 83, c'est l'époque des disquettes ou des floppy disques, hein. Et quand j'ai des floppy disques, c'est pas les disquettes 3 pouces et demi. Pour ceux qui savent, c'est les 5 pouces 1 quart qu'on voit dans le film derrière.
C'est les grosses disquettes.
C'est les grosses disquettes.
Et souple,
voilà.
D'ailleurs.
C'est 83, c'est l'année d'adoption du TCP/IP, qui est le protocole d'Internet. Mais le mot Internet n'existait pas. Il est apparu 6 mois après. Et à cette époque-là, il y a à peu près 1000 ordinateurs seulement connectés. C'est l'apparition du Lisa d'Apple. Le premier ordinateur avec une interface graphique, donc on est loin, loin, loin derrière l'internet derrière. Même il va falloir attendre 8 ans pour avoir l'annonce publique du World Wide Web, hein, quand même, de Tim Berners-Lee. Voilà, le scénario, il est intéressant. Donc c'est surtout le scénariste qui m'est intéressé parce qu'il a passé 10 ans au ce qui s'appelle le SRI, c'est-à-dire le Stanford Research Institute. Et puis il a vu le premier nœud ou le deuxième nœud internet derrière, et puis ça l'a inspiré sur un certain nombre de choses. Voilà derrière. Donc l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est on est en pleine guerre froide, on est dans les années 80. Voilà, entre les États-Unis et la Russie, voilà, ça résonne aussi, encore une fois. Et puis David Lightman, c'est un petit jeune qui est joué par Matthew Broderick, qui est tout jeune, celui qui joue dans La Folle Journée de Ferris Bueller, voilà, un super film aussi. C'est un petit pirate informatique, sympathique, voilà, qui joue, qui va un peu hacker.
Un peu rebelle aussi.
Un peu rebelle, un peu qui veut frimer, enfin,
un peu ado,
avec sa copine,
quoi.
Complètement ado, et qui va, via son PC, qui est, alors si je ne le retrouvais pas, un IBM IMSAI 8080, voilà, de l'époque, avec un modem analogique.
Donc derrière. C'était des ordi qui existaient vraiment, hein,
c'était
qui ont
des
été
ordi, des
transposés dans le
premiers ordi,
dans le film.
Exactement, qui n'étaient pas tellement déployés à l'époque, hein, derrière. Ouais. Puis il va hacker d'abord l'équivalent du Parcoursup de l'époque, en fait, pour changer ses notes, pour frimer devant sa copine. Et puis surtout, il va hacker, en fait, le système de défense national, enfin américain derrière, qui s'appelle le NORAD, voilà, le Pentagone, hein, voilà. Et puis il va jouer avec une espèce d'IA, on va le voir, puis il va croire que c'est une simulation, il va choisir même le jeu de la guerre thermonucléaire globale, voilà. Puis ça va semer la panique derrière, puisque voilà, le jouer, il croit se connecter en fait à un serveur de jeux vidéo déjà, voilà, en cloud gaming finalement. Mm-hmm. Et puis non, il va se connecter, voilà, ce serveur de défense du Pentagone.
Alors on est il y a 40 ans en arrière, hein, c'est dingue.
Ah ouais, il y a 40 ans.
Et en fait ce sujet résonne encore d'une manière incroyable. On est dans la cybersécurité, le hacking, et en quoi ce film est innovant finalement?
Ah, en fait, c'est le premier film de hacker. C'est considéré d'ailleurs par Sergey Brin comme le film qui lui a donné envie d'être un peu nerd cool. Puisque c'était l'époque des nerds cool, hein.
Ouais, ouais.
Voilà, ce Matthew Broderick. Le Wargame, évidemment, c'est le jeu de simulation thermonucléaire, le jeu de la guerre, voilà. C'est aussi le Wargame, la définition d'une technique de cybersécurité. Voilà, c'est la définition, c'est un défi de cybersécurité dans lequel les concurrents doivent exploiter ou défendre la vulnérabilité d'une application afin de gagner ou empêcher l'accès d'un système informatique. Donc, c'est le premier film, finalement, d'un sujet de hacker. Et d'ailleurs, ça va résonner de cette façon-là, mais on voit les premières techniques de hacker. Alors, il y en a deux, hein, simplement. Il y en a une qui s'appelle le demon dialing. C'est le fait qu'il va, sans arrêt, son PC, finalement, va appeler tous les téléphones de l'époque. Et puis, dès qu'il en chope un qui est un ordinateur, bah, il va essayer de s'y connecter. Donc ça, ça s'appelle le demon dialing, qui va être très utilisé pour, voilà, frauder, en fait, les compagnies téléphoniques à l'époque. Et puis, le deuxième, qui est très simple, hein, c'est qu'il va usurper l'identité. Voilà, pour se connecter au serveur. Alors, il va faire simple, il va prendre le master admin password, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire celui du créateur, voilà, de l'IA, hein, qui est le professeur Falcon, donc Falcon, et puis le password, c'est le nom de son fils décédé, Joshua. Voilà, donc assez simple, on peut dire, il n'y a pas tellement de sécurité là-dessus. Mais voilà, donc c'est un basique problème de mot de passe.
Mais on était en 1983, hein, déjà, on avait ces réflexes-là.
Ouais, et c'est, en 1983, après, ça va donner en hommage, voilà, l'une des plus grandes conventions de défense et de sécurité, ça s'appelle le DEFCON, en hommage, en fait, au SFIN, puisque c'est les différents niveaux de sécurité qui vont être passés, les DEFCON 1, 2, 3, 4. Et puis surtout, l'histoire raconte que, elle a été racontée par le New York Times il y a quelques années seulement, que Ronald Reagan avait vu le film à l'époque, puis il s'était dit, ah, qu'est-ce qui se passe derrière? Il avait demandé à ses conseillers militaires, est-ce que c'est possible aux États-Unis? Ces conseillers militaires ont mis une semaine à revenir vers lui et dire, bah en fait, je lis texto, monsieur le président, la situation est bien pire que vous ne le pensiez. Et donc la NSA va proposer, alors va reconnaître que le développement des réseaux va entraîner ces problèmes de cybersécurité, déjà à l'époque, et ça sera 18 mois plus tard la première directive présidentielle sur la sécurité informatique, la NSDD 145. Donc comment un film finalement va déclencher une politique de cybersécurité dans les années 80.
Alors ce film, donc, il y a, vous l'avez compris, de la cybersécurité, du hacking, mais c'est aussi un film qui parle d'IA, d'intelligence artificielle, mais aussi de ChatGPT.
Puisque encore une fois, alors on avait vu Heure la dernière fois, il y a une dizaine d'années, ce film, mais là, dès les années 80, en fait, Matthew Broderick, qu'on voit, va converser avec une intelligence artificielle qui s'appelle Joshua, en mode texte d'ailleurs, puisqu'il y a du son, c'est vrai, un peu synthétisé, comme à l'époque, hein, finalement, mais c'est juste pour un effet de rythme de film derrière, hein, le reconnaîtra le réalisateur, mais c'est une forme de ChatGPT fine-tuné, c'est-à-dire qu'il va être sur un certain corpus, un certain domaine, qui est celui des jeux, en l'occurrence, puisqu'il croit qu'il est sur une console de jeu. Donc on est déjà dans une interaction. Il y a une scène assez amusante dans laquelle Matthew Broderick va dire « Ah, bah tu sais quoi, je vais prendre on va acheter un vol pour Hawaï. » Et puis l'IA va lui répondre « Mais t'es en train de fuir les États-Unis, hein ?» Et il répond « Non, non, je suis juste en train de frimer vis-à-vis de ma copine. » Donc on retrouve un peu cet étonnement, cette fascination pour le ChatGPT. On est déjà le premier ChatGPT derrière.
Et c'est aussi, et tu le dis, le premier jailbreak de l'histoire du cinéma.
Alors voilà, c'est ça qui est étonnant. Alors un jailbreak, c'est quoi? On connaît les jailbreaks sur les téléphones. Oui. C'est-à-dire comment je vais
percer le soft et oui, voilà.
Trouver la faille, voilà, en termes de sécurité pour déverrouiller, avoir accès au système d'information. Le jailbreak, c'est aussi une technique de cybersécurité pour tester des systèmes d'information, pour tester des IA aussi, pour tester jusqu'au bout des IA. Et finalement, que fait dans l'histoire, sans vouloir spoiler jusqu'à la fin, hein, mais évidemment, ça va bien se finir. Voilà, mais Matthew Broderick va tester aux limites et va prendre à son propre jeu l'IA. Voilà, en lui montrant, parce que Joshua Dia va dire, moi le but c'est de gagner la guerre, il va lui montrer que ça ne sert à rien en lui faisant jouer plein de parties dans tous les sens de cette guerre thermonucléaire simulée pour montrer qu'à la fin personne gagne, donc ça sert à rien de jouer. Bah, c'est une technique de jailbreak relativement classique, assez primaire c'est vrai, mais c'est une technique de jailbreak de hacker en fait derrière. Ouais. Et c'est la première fois qu'on voit ça au cinéma.
Incroyable. Bon, on le disait, 1983-2023, ce film a pile 40 ans.
Ouais.
Évidemment, il était en avance sur son temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film aujourd'hui?
On peut retenir deux choses. D'abord, on va protéger ses mots de passe, hein, derrière, c'est la première chose. C'est peut-être déjà de changer ses mots de passe et surtout l'authentification double via mobile.
Alors, et ne mettez pas Joshua, s'il vous plaît.
Il n'y en avait pas. Donc, mettez pas Joshua dans vos mots de passe et surtout faites une authentification double par mobile. Il n'y avait pas de mobile à l'époque, hein, dans les années 80. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce film pose la question de en quoi sert l'IA, cette fascination qu'on a pour la data l'IA. Tout le sujet est sur est-ce que l'IA va prendre les décisions à ma place? La réponse dans ce film, elle est très claire. Je pense que c'est le sujet indirect de tout ce qu'on voit sur ChatGPT, c'est non, l'IA doit être un copilote pour nos prises de décision raisonnée derrière. Donc c'est une belle morale. Je finirai sur cette phrase. Hein. À un moment donné, il y a une discussion avec le général qui va peut-être appuyer sur le bouton nucléaire. Et t'as le petit Matthew Broderick qui dit « Général, vous écoutez une machine, faites-moi plaisir, n'agissez pas comme une machine. »
Pas mal.
Une belle morale d'histoire, je pense, surtout notre société data-driven.
Et qui est toujours valable et encore plus valable
encore
aujourd'hui
plus
avec ChatGPT et toute cette
intelligence. Et tout ce sujet, à quoi ça sert en termes de copilotage, finalement, de nos prises de décision derrière.
Merci beaucoup, Xavier Perret, donc directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Et tu viendras bientôt nous parler, justement, de toute cette stratégie d'IA.
Pour les entreprises
Microsoft.
Et l'impact, avec plaisir, par rapport à
l'intégration de Bing aussi.
Exactement.
Tiens, pour l'information, si les propos de Xavier vous ont donner envie de voir Wargames. Il n'est pas disponible sur les Netflix, Amazon Prime, etc. Il est en revanche sur MyCanal, sur Ciné+.
Exactement.
Voilà.
En ce moment,
si vous êtes abonné,
le revoir.
À MyCanal.
Sinon, il est en VOD. On peut pouvoir le retrouver en VOD.
Merci beaucoup, Xavier.
Merci, François.